的公司。
为什么
不是你的级别？
Après cela,
Je crois ce qu'ont entendu les premiers chrétiens lorsqu'ils parlaient du mystère concernant ce du témoigné comme vous. C'est parce que, en tant qu'apôtre, ils étaient des juifs qui allaient chez les non-juifs parler finalement d'une histoire, qui est une histoire de famille, d'une tribu juive. Et alors, quand on leur demandait, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Ça, c'est des mystères. Et que ça veut dire des mystères? Ça veut dire qu'il n'y a que les juifs qui comprennent. Parce que c'est vrai, et je dirais comment ça se dit chez les musulmans, c'est vrai que c'est des histoires de famille, mais c'est pas n'importe quelle famille. C'est la famille dont la prophétie hébraïque nous dit qu'à travers elle, le salut viendra pour le monde entier, et c'est en ça que croit le chrétien. Vous comprenez? Une petite chose qui nous gêne, et c'est que les chrétiens disent, pour former leur foi le plus aisément, Dieu s'est fait homme pour sauver le monde. Mais ils savent que c'est pas comme ça. Ils savent que Dieu s'est fait juif pour sauver le monde d'après leur foi. Pourquoi ne dit-il pas ça comme ça? Amicalement, de telle sorte qu'on s'explique. Tant que c'est dit, mais le juif c'est judas, le prêtre, il ne peut pas s'expliquer. Vous comprenez le problème? Je crois que l'orthodoxie chrétienne tient à ce que son messie soit né du juif. Sinon, or, il y aura aussi le fait qu'elle s'appelle Myriam, comme par hasard le nom de la sœur de Moïse. Relisez bien l'histoire des Hébreux. Et vous verrez que derrière, il y a des histoires de femmes. Symboliser le nom pour la messianité chrétienne, ça devient des mystères. Oui, tiens, je
voyez-vous que le problème du messianisme soit le problème essentiel du christianisme de sang. Parce que tout de même, on trouve que Jésus est le Christ, mais on peut surtout trouver qu'il est Seigneur. Le Seigneur Jésus. Et par exemple, dans cette ville de Jérusalem, où on dit, afin que tous les nous péchés sur la terre, dans le ciel et dans les enfers, c'est que tout le monde proclame, qui va changer, que Jésus est Seigneur, avec l'âme de Père, avec son qui est Dieu Seigneur, qui est Dieu Dieu, le Père, et le Seigneur Seigneur, c'est la tradition qui est Dieu.
Ah non, pas du tout. Non, c'est ce soir, non, la rigueur, mais dans la rigueur. Écoutez, vous avez tenu un discours chrétien, cohérent et orthodoxe. Et non, vous avez tenu un discours. Et notre problème, c'était la définition du faux messie par excellence, selon la tradition juive. Et j'essaie de montrer que ce serait trop délicat de parler du problème, de l'incarnation, de la Trinité, de toute cette projection radicalement non-hébraïque des conceptions du Dieu sauveur dans les mythes anciens sur la Bible grecque. J'ai voulu éviter de parler de ça. Et j'essaie de me borner à essayer d'éclairer quel était le projet de la messianité chrétienne en termes qui pourraient être termes de dialogue, c'est-à-dire au niveau desquels nous pouvions nous expliquer les uns et les autres. Parce que finalement, où serait le blocage? Et tant qu'un chrétien ou un non-juif parlerait du Christ, de l'orthodoxie de la théologie chrétienne, nous ne pouvons pas entendre. Sinon, nous serions obligés de dire c'est un faux Dieu, c'est un faux Messie, purement et simplement, sinon leur dignité de juif sera en question. Mais comme nous savons que ça nous risque l'inquisition, alors on va autre chose. Mais le jour où le véritable dialogue théologique pourrait commencer, c'est à ce moment-là qu'il se poserait. Et sur ce point précis, de façon très brève et très sobre, il y a projection d'une mentalité païenne sur un récit hébraïque.
Madame, s'il vous plaît.
Parlez plus fort, parce que
je voulais poser des questions dans la mesure où le christianisme est l'islam, au sens où on n'a pas pensé le message juif. Il est quand même une politique dans ce sens. Si la religion est compliquée, je pense que c'est une question de pouvoir. C'est que c'est la culture au niveau du pouvoir. C'est ce qui voudrait partir de ce message, mais je me demande si la clé de ce pouvoir ne se situe pas à la.
Je ne sais pas, je ne crois pas. Voyez-vous, ce serait trop long que le message soit infailli, mais qu'on se trompe pendant 2000 ans à cause des porteurs du message. C'est trop énorme. Mais admettons votre postulat. Alors, un dialogue pourrait se faire entre un juif qui n'a pas le pouvoir, qui n'a plus à être psychanalysé, et entre un chrétien qui n'a pas le pouvoir, mais le conflit serait le même, parce que c'est un conflit de messianité complètement différent. J'en profite pour ajouter, puisque vous m'avez rappelé l'islam, que dans la tradition musulmane, il y a aussi des choses incompréhensibles au monde hébreu. Des récits dans le Coran, et aussi dans la tradition orale musulmane, des récits qui se réfèrent à ce que nous appelons des midrashim, du folklore familial des Hébreux. Alors les musulmans appellent ça en arabe israéliyat. Ça veut dire les choses qui concernent les juifs. Ça, tu ne peux pas comprendre. Je ne vais pas fréquenter. Mais je crois que ce récit de la passion, dans toutes ses étapes, c'est qu'on raconte sous une figure mythique, individuelle d'un Dieu sauveur, l'histoire du peuple d'Israël. Il y a une deuxième ligne de lecture et il y en a d'autres. Mais relisez attentivement le récit de la passion. Et relisez attentivement l'histoire d'Israël. Indépendamment de à tous les niveaux, et indépendamment du phénomène littéraire de ce qu'on appelle la contamination des figures en une seule figure, vous allez retrouver tous les éléments d'identité de l'histoire d'Israël, proposé comme mythe sauveur aux nations d'Israël, et à la manière de la religiosité du temps. Il n'y a rien de juif dans ce que le christianisme a fait passer au monde. Il n'y a rien de juif dans ce que l'islam a fait passer au monde. Il y a un certain nombre important de valeurs universelles que partagent les juifs et les chrétiens et les musulmans, mais je crois que c'est faux de dire que c'est le judaïsme qui a passé par l'islam ou par la chrétienté. C'est autre chose. Et ça ne signifie pas que la charité chrétienne ne soit pas une valeur authentique. Ça ne signifie pas que l'exigence de vertu rigoureuse d'un musulman, je ne dis pas les nations musulmanes, du musulman en tant que musulman, ne soit pas une vertu authentique. Il n'y a pas besoin des juifs pour ça. Je vous donne un exemple. Pourquoi ? Je crois que cette conversation, je l'avais eu avec Jérémy Catholic dont je vous parlais. Mais si, enfin, vous ne comprenez pas qu'il fallait que Dieu se fasse homme pour qu'on puisse comprendre que la valeur fondamentale qui est celle de la charité, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si, moi j'ai besoin que Dieu se fasse homme pour ça. Pour ça, ma mère m'a dit ça. C'est de l'éducation vue élémentaire. Toute cette histoire de l'incarnation pour aboutir à lire un verset des Hébreux. Oui, nous ne sommes pas du tout sur la même planète théologique. Et c'est pourquoi j'essaye de dire que ce dialogue est nécessaire pour l'économie de l'histoire contemporaine et future, mais qui ne peut pas se porter au niveau de la personne du Christ, mais de la confrontation des deux projets messianiques que cela véhicule. Vous avez encore combien de questions?
Une dernière question,
monsieur. Peut-être deux quand même, peut-être deux, oui, deux.
Vous avez mentionné tout à l'heure ces mouvements de non-sionistes en Assad, etc. Je comprends que vous êtes en train de venir à l'unité de l'Église, parce qu'ils ont considéré que c'est un premier pas, c'est mieux que ce qu'on pouvait dans le passé. Enfin, ces gens-là continuent quand même de s'affirmer en tant que chrétiens, tout ce que ça implique comme peintre radical, judaïste, etc. Alors, ne pensez-vous pas qu'en réalité, il s'agit d'une nouvelle ruse de perpétuer un type russe par exemple le christianisme, et qui ne pourrait que retarder du temps en réalité de...
Vous savez, il y a un risque. Il y a peut-être un risque, mais l'engagement que ça représente pour ces chrétiens est tellement délicat vis-à-vis de leur propre hiérarchie d'église, de leur propre relation d'orthodoxie avec leur propre théologie, et sur ce point, vous avez raison, ils sont évidemment hérétiques du christianisme. C'est vraiment un tel courage d'engagement, et d'autre part aussi un tel courage d'engagement politique tout court, sociopolitique tout court, que je crois que peut-être qu'il y a des espions parmi eux, des cinquièmes colonnes, on sait bien, je veux dire, de convertisseurs, mais je crois que c'est un phénomène radicalement nouveau, et qui demande d'être défini avec un a priori de bonne foi. On verra bien ce que l'histoire en fera. Mais c'est tellement radicalement nouveau et courageux, je dis bien, parce que c'est plus la bouillie sucrée de la pure amitié judéo-chrétienne. Vous savez, ça, c'est un engagement concret de l'homme chrétien. Et ce qui fait que je serais peut-être un petit peu plus optimiste. Nous sommes pas tellement contents, je ne sais pas vous employer, que étonnés, mais d'un étonnement très profond. Oui. D'abord sur l'expression de fin des temps, je crois qu'il faudrait avoir assez mon attention. Et dans la messianité juive, ça veut dire la fin des temps de l'exil, pas la fin des temps du monde. Et ça a été déjà signalé, relisez bien la Bible en hébreu. La fin des temps de l'exil, qui est considérée de façon vécue profonde, tant par ceux qui pensent que le temps de l'exil a déjà fini, a commencé à finir, que ceux qui pensent que non, que c'est pas fini, comme une situation anormale d'existence. Et là, je pourrais vous citer en particulier, surtout le Maharal, mais il suffit de se référer à l'existence vécue de Juifs. Essayez d'imaginer l'existence de Joseph chez le Pharaon. Une existence anormale, déguisée, travestie, afin de survivre en mission. Et l'existence dangereuse. Précisément parce que j'ai un homme. Alors, cette impatience de la fin des temps, pour nous, juifs, c'est l'impatience colossale de redevenir normal. Alors, pas à la fin, tout de suite, demain, aujourd'hui, demain, c'est quoi? J'ai beaucoup de textes qui disent, vous l'attendez, pourquoi? On ne sait pas. Eh bien, aujourd'hui, ailleurs, une décolo, on y serait dans la vie de l'hier, qui vient déjà hier. C'est bon truc. Et, quel était le deuxième point, je n'ai pas noté? Oui. Si vous avez fanatique, quelqu'un qui veut enfin être lui-même après 2000 ans de normalité, alors c'est l'existence humaine qui est fanatique.
Bien, je voulais conclure en vous rappelant le prochain rendez-vous. Donc demain, il y aura donc le cours du matin à 10h30, le cours du soir qui sera fait par M. Michel France. Vendredi matin également le cours qui sera fait par